Une belle, oui, une époque qu'on n'aimerait même voir plus du tout. On
Direct
aimerait
en
bien ne
jeu,
pas
la
revenir.
radio insolite, le bonheur de rencontrer, de retrouver plutôt quelqu'un qui, alors, se paye le luxe d'avoir trois noms. Moi, j'en ai qu'un seul. Okay? Mais lui, c'est carrément Durand, Colère, Lumière. Ah, dis-moi, c'est bien. Il n'y a pas de particules, Marc? Il n'y a pas. Non?
Oh, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Non, il n'y a pas de particules. En vérité, mon nom, c'est Marc Durand. Et dans certaines situations, comme celles que nous vivons à l'heure actuelle, voilà, je rajoute que l'air lumière, qui sont donc mes arrière-grands-parents, puisque mon arrière-grand-mère était la sœur d'Auguste et Louis Lumière.
D'accord.
Donc voilà, c'est pour un peu caler le personnage.
Mais c'est bien parce que quand je pense à toi, je pense souvent aussi à Diane de Navacelles qui a rajouté de Coubertin, puisqu'elle fait partie de la famille de Coubertin et est évidemment
Voilà.
très engagée depuis 3 ans sur la mise en place des Jeux Olympiques à Paris. Voilà. Première question, parce que évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve, mais malgré tout le monde ne te connaît pas encore. Qui es-tu? Que
Bien
fais-tu dans
sûr.
la vie?
Eh bien, je suis archiviste aux Archives nationales et dans ce cadre, je suis historien de la photographie et également des premiers temps du cinéma. Voilà, c'est mon travail. Donc, je fais cette activité depuis 35 ans maintenant, ça ne rajeunit pas. Et donc, petit à petit, voilà, j'essaye toujours de mettre en œuvre et d'expliquer au public un peu la genèse et la naissance de ces deux arts majeurs, que sont la photographie et la cinématographie, au travers de mon travail. Comme je le dis toujours, c'est pas parce que j'ai quelques globules rouges en commun avec Louis Lumière que j'ai plus de droits ou plus de passe-droits que d'autres. Bien au contraire, quelque part. Bien
Non,
au contraire.
mais c'est vrai que tu parles de choses concrètes parce que je pense que dans tout ton univers d'enfance, tu as vécu tout autour de ces personnages.
Alors, tout à fait. Mais j'ai vécu ça d'une manière assez particulière. Parce que dans ma famille, bon, nous n'avons jamais été élevés dans le culte de l'ancêtre ou des ancêtres.
Ouais.
Donc on en parlait assez peu souvent, et quand nous parlions de nos ancêtres ou de nos arrière-grands-parents, c'était beaucoup plus dans un sens totalement familial, avec des anecdotes qui n'intéressent absolument pas l'histoire de leur œuvre ou de leur travail. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. Et ça a eu deux avantages, c'est peut-être d'être plus proche d'eux et également de ne pas avoir à porter sur des épaules pas assez solides pour faire ça, de porter une histoire. C'est par mon travail, justement, de chargé d'études documentaires
C'est
aux
important
Archives
ça.
nationales que j'ai appris à développer et donc à faire connaître leur travail, leur œuvre, comme je le disais tout à l'heure.
Ce qui est toujours un peu étonnant, je vais me permettre une liberté, c'est que tu es quelqu'un de très
Oui.
humble, très facile d'accès, alors que tu pourrais justement te dire que tu portes dans tes gènes.
Alors, oui. Alors, bon, je veux
Vas-y.
dire, c'est plus agréable d'être le descendant de la famille Lumière que d'autres personnalités, hélas, trop connues pour les drames qu'ils ont pu
Ouais.
engendrer dans leur vie. Mais bon, je ne sais pas si je suis humble ou pas. J'essaye. Après, il faut toujours se méfier des gens qui vous disent oh oui, mais moi, je suis rien du tout. Et puis, non. C'est vrai que, bon, je dis ça, heureusement. Très bien, et puis aussi parce que le reste de mes cousins Lumière le vit de la même manière. Là, voilà, dernièrement, je déjeunais avec d'autres cousins Lumière. Voilà, on a parlé de tout sauf de ça. Donc, comme d'habitude.
Oui, bah,
Et c'est très bien comme ça.
oui, non, mais
Voilà, donc.
sûrement, c'est vrai que la vie ne tourne pas autour de tout ça.
Oui, heureusement.
Qu'est-ce que on est en train tous de préparer le Festival de Cannes, qui est dans un mois et demi. C'est une fierté de se dire que son aïeul aurait dû être ou a été le premier président du festival?
Ah oui, c'était un vrai plaisir. Alors, ce qu'il faut toujours essayer de faire en tant qu'historien, c'est de se replacer dans le contexte de l'époque. Donc, quand on a créé le Festival de Cannes, d'abord en 1939, on ne savait pas qu'il allait devenir le festival le plus important du monde. Donc, cette fierté, nous pouvons peut-être l'avoir aujourd'hui, mais à son époque, bon, c'était un festival qui a été créé donc en 1939, en réponse de la Mostra de Venise, qui elle avait été créée en 32, je crois, oui, ça doit être ça. Et en 1938, le régime mussolinien et nazi se sont débrouillés, je crois que c'est ça aussi, pour donner le Lion d'Or au fils de Mussolini, qui avait fait un petit film qui a bien sûr marqué tout à fait les esprits, si tu vois ce que je veux dire. Donc, à l'époque, c'était Erlanger, François Erlanger, non, c'est pas François Paul, dont la mère d'ailleurs
Philippe.
faisait Philippe, merci. Heureusement que tu suis bien mieux que moi. Philippe Erlanger qui a donc qui a proposé à Jean Zay, qui était à l'époque le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ce qui correspond aujourd'hui à l'Éducation nationale et la culture, de créer un festival justement pour contrecarrer le festival de Venise. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce festival en 39 et qu'en 1939, on a bien sûr proposé à Louis Lumière d'en être le président. Et il y a des photos de Louis avec Jean Zay qui sont extrêmement drôles parce qu'il est arrivé habillé avec un très joli costume à rayures. Alors, les photos sont en noir et blanc, mais gris et blanc sans doute. Et il est là au milieu de tout le monde, absolument hilar. Donc il était très très content, le tonton Louis, d'arriver à Cannes et pour assurer la première présidence de ce festival qui ne durera d'ailleurs qu'une journée.
Exact.
Voilà, il y a eu une inauguration, je crois que c'était en septembre,
Le 1er
et ils ont
septembre de 1939, pour être précis.
voilà. Et donc ils ont reçu des seaux d'eau d'un orage maritime sur la tête, et donc tout a été noyé. Et le lendemain, c'était la déclaration de guerre, le 1er septembre. Donc tout a été arrêté. Donc il y a eu une sorte voilà, il y a eu comme une sorte de festival, mais qui a été arrêté. Et après, on a repris cette idée après la Seconde Guerre mondiale, où là encore, Louis était le président. Donc c'était en 46, c'est ça?
C'est
Je crois
ça,
que c'est
exact.
ça. Et donc Louis est mort en 48. Voilà, la genèse de ce festival qui aujourd'hui n'a plus besoin d'être présenté, bien sûr.
Il est toujours à découvrir parce que tous les ans, ça
Et
change.
toujours, bien sûr, bien sûr,
Ouais. Alors,
bien sûr.
j'en profite pour rappeler aux auditeurs que jeudi prochain, à 11h, il y a donc le dévoilement de la sélection officielle du festival, que vous pourrez suivre évidemment en direct sur Direct en Jeu, sur les pages Facebook de Direct en Jeu, parce que ça c'est important, c'est là où Thierry Frémaux et la présidente qui s'appelle Ingrid Bush, je crois, j'ai dit, il faut que je revérifie quand même le nom de la présidente, c'est là où ils vont présenter quand même justement la sélection officielle. Ce qui veut dire que là, carrément, pour faire un peu d'humour, on est déjà en fonction, en direction de Cannes, puisqu'il y a plein de choses qui se préparent déjà et qui vont permettre d'avoir une édition 2024 et c'est sympa. Alors, tu as parlé photographie et cinéma. Les frères Lumière, en fait, n'ont pas fait que créer le cinéma. Ils étaient aussi un peu dans le domaine de la photo. Ils ont quand même fait pas mal de choses.
Tout à fait, oui.
Et ça, on ne le sait pas toujours, ça.
Ben, oui, c'est-à-dire que bon, on est axé sur l'invention la plus universelle de Louis, qui est la cinématographie, le cinéma. Mais c'est aussi un chimiste très très important avec son frère Auguste. Et en effet, ils ont créé et mis au point des formules de produits chimiques et de matériel pour la photographie, donc trop des plaques, photographiques, des plaques de verre qu'on peut encore trouver de temps en temps sur des brocantes. Et donc, ils ont créé, Louis a réussi à fabriquer des plaques à l'âge de 17 ans, en 1889, oui, c'est ça, à peu près. Et donc, ils ont créé une société qui, 5 ans plus tard, était la première société européenne de plaques photographiques, de fabrication de plaques photo, et qui était le concurrent principal de la maison Kodak, de Eastman Kodak. Et son œuvre principale pour Louis, moi j'ai toujours entendu ça, que Louis Lumière, il avait mis au point un procédé de photographie des couleurs, qui s'appelle les autochromes. C'est, alors pour essayer de faire simple, bien que ça soit très compliqué, un autochrome, c'est un peu l'ancêtre d'un écran d'ordinateur.
Ouais, d'accord.
Où on a un ordinateur, on sait qu'il y a des pixels, hein, des petits points, les uns à côté des autres, qui s'éclairent et qui donnent la couleur. Et là, ces points sur ces plaques autochromes, ils sont remplacés par des grains de quelques microns de grosseur de fécule de pommes de terre. C'est de la purée de patate qu'il a
D'accord.
teintée en 3 couleurs. Après, on met une pression, on met cette émulsion entre 2 plaques de verre. On appuie sur ces 2 plaques de verre avec un appareil que Louis a mis au point aussi. C'est que ça fait comme une sorte d'essuie-glace. Donc c'est avec une pointe, donc on descend de haut en bas cette pointe qui appuie sur les 2 verres et ça écrase cette patate et ça permet, bon, avec de faire de la photo en couleur. Et aujourd'hui encore, si on peut voir ces photos, ces plaques photographiques, elles sont d'une qualité, c'est très impressionniste comme vision. Et ça, c'est son œuvre majeure. Il a toujours dit, Louis a toujours dit que c'était l'invention qui lui avait le plus coûté et qui pour lui représentait vraiment le summum de son travail. Et que le cinématographe, c'était plutôt, il avait plutôt cherché à relever un défi. Et donc, c'était plus peut-être un amusement qu'autre chose pour Louis Lumière. Louis, c'était un bricoleur de génie. Ce que me disait son petit-fils, Maurice. Mon grand-père, qui lui donnait un mécano, il construisait la tour Eiffel.
Oui, mais c'est un bon exemple aussi, parce que
Quelque
bon,
part, oui, c'est ça.
bah
C'est
ouais, surtout qu'elle n'avait pas été
un des.
construite pour durer si longtemps.
Voilà. C'était un esprit de synthèse. Voilà, il avait un problème à régler, comme la cinématographie, pratiquement tout avait été connu pour fabriquer un cinématographe. Seulement fallait-il encore pouvoir le fabriquer. C'est Louis Lumière qui a assemblé les morceaux du Pols et qui a permis de créer une petite boîte de moins de 5 kilos qui permettait, ça c'est très important dans le cinéma, cette boîte, elle faisait 3 choses en même temps. Elle faisait la caméra, c'est-à-dire elle captait l'image. Après cette image, il fallait la développer. Donc c'était une tireuse. Et après, on changeait d'objectif et c'était un projecteur. Tu vois, c'est 3 choses différentes, trois destinations différentes dans un seul et même et unique appareil. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire dans le cinématographe. C'est ce qui existait avant, c'était des choses qui pesaient plusieurs dizaines de kilos. Il y avait tout un matériel qui permettait de faire ou de la photographie sur une pellicule ou des dessins. Mais bon, l'agencement du matériel qui permettait de faire une projection sur un écran, sur un mur, bon, c'était une véritable usine à gaz. Et là, tout d'un coup, on pouvait aller se balader avec son petit appareil sous le bras. Et donc, il a formé une quinzaine de jeunes gens. C'était pour certains des gamins. Il y en avait le plus jeune, il avait 17 ans. 17 ans, et ça fait d'oublier, il avait en plus un pied beau. Il l'a envoyé en Russie filmer le couronnement du tsar, entre autres.
C'est
C'était
mignon.
des... Voilà, des... Ils étaient totalement de leur temps. C'est ça qui est important. c'est être de son temps en ayant derrière soi, voilà, une, tout un monde et toute une instruction. Ils avaient, ils travaillaient, ils ont fait leurs études dans ce qui est un peu l'école centrale à Lyon, l'école de la Martinière, qui leur a permis d'avoir, d'apprendre une technicité intellectuelle. Ce, leur père, Antoine, disait toujours, ça sert à rien d'apprendre le grec et le latin, vaut mieux avoir, comme on dit, une tête bien faite, une tête bien pleine. Il leur a bien rempli la tête. D'accord. Je ne crois pas avoir le pépé Lumière.
Ouais, c'était, alors la question est un peu basique, c'était incontournable que Louis Lumière soit le premier président du festival.
Ben, c'est vrai que historiquement, comme il, est, comme il a eu la, bon, la bonté de vivre jusqu'à cet âge, oui, je pense que c'était quand même logique que ce soit le, l'inventeur de l'appareil. Après, bon, en 30, non, Méliès il est mort en 36, donc il n'était plus là, c'était pas possible. Mm-hmm. Après, bon, on aurait pu demander à d'autres, on aurait pu demander à Charlie Chaplin. Maintenant, bon, faut pas non plus oublier le contexte politique. Oui. Où il fallait quand même que ce soit quand même bien franco-français. Mmh. Donc je dois dire que si on avait demandé à quelqu'un d'autre que Louis Lumière, je pense qu'on aurait eu quand même du mal. Quand on a le premier, le, la première remise des Césars, on avait demandé à Jean Gabin, c'était Gabin qui était le président. Mmh. Et je crois que c'est pas... Bon, on n'a pas demandé à, au dernier ou au premier... jeune venu d'être le président. On a d'accord. besoin d'une, d'un regard historique ou d'une vieille dame ou d'un vieux monsieur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à son époque, bon, c'était, je pense, difficilement concevable de ne pas mettre Louis Lumière en lumière, pour faire un mauvais jeu de mots. Mmh,
tout à fait.
Il n'y avait pas besoin de ça.
En plus, oui, je pense que... ouais. Toujours un peu dans l'histoire. Ouais, toujours un peu dans l'historique du premier. Oui. D'abord, ben, le festival s'est appelé Festival International du Film, et je crois que c'est dans les années 70 qu'il est devenu le Festival de Cannes. C'est oui. important. Mais Cannes n'était pas la première ville qui était qui avait été retenue pour ce festival.
Oui, oui, oui. Je crois que c'était Deauville, non ?
Il y avait Deauville. Non, il y avait aussi Biarritz.
Et Biarritz, oui, oui. À chaque fois, j'oublie Biarritz. J'ai rien contre les Biarros, mais pourtant, oui, oui, c'est ça. Et il y avait un, voilà. Et, ça, et en définitive, ils ont pris, ils ont choisi Cannes. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Peut-être que tu le sais mieux que moi, ça, non ?
Ah, mais d'après moi, les infos que j'ai, ça a été le côté prestige, la mobilisation de la ville, des commerçants, oui. des hôteliers. Oui. Cannes avait déjà une réputation assez conséquente.
Oui.
Voilà, et c'est pour ça que ça a été une symbiose, une synergie assez conséquente qui a fait que Cannes a été retenu.
Oui, oui. Oui, la ville s'est beaucoup plus investie que les autres.
Complètement. Ah oui, tout à fait.
Ils ont vu ça. Oui, oui, oui. Ils ont eu le nez creux, comme l'on dit.
Aujourd'hui. Je me rappelle que l'an dernier, on a eu une expo à Cannes sur les affiches du festival.
Oui.
Tu, dans toutes les archives que tu gardes sur le cinéma, je suppose que tu as aussi ce genre de choses.
Alors, aux archives, personnellement, non, j'ai pas ça, mais ça, tu as un musée de l'affiche. Je suis en train de chercher où il est. C'est où le musée de l'affiche, enfin, c'est pas à Limoges. Enfin bon. Donc il y a un musée. Il existe donc un musée de l'affiche où tout ça est conservé. Bon, il y en a à la Cinémathèque française. Il y en a sûrement à l'Institut Lumière. Voilà, il y a des fonds spécifiques dans ce domaine de l'affiche, mais c'est très compliqué à conserver les affiches. Ce sont généralement de très grands formats.
Oui.
Le papier n'est absolument pas conçu pour être conservé.
Bah oui. Mais...
Parce que c'est quand même encore à cette époque parfois bah, collé sur des murs. Bon, c'est des papiers à encoller. Donc c'est très compliqué à conserver. Ça se conserve à plat. Dès que tu les roules, c'est difficile. Après la Seconde Guerre mondiale, le papier était très acide, donc c'est très cassant. C'est un peu comme nos vieux journaux.
Oui, c'est ça.
Donc c'est compliqué à conserver les affiches. Donc celles et ceux qui peuvent en avoir, voilà, ça demande des conditions de conservation, d'hygrométrie particulières. Donc c'est difficile.
Comme nos vieilles photos, comme nos vieux journaux, comme tu disais, comme tout ça.
Voilà, c'est conservé dans des boîtes spéciales. Donc c'est compliqué, oui. Ça pose des problèmes et il y a eu de grands affichistes. À chaque fois, d'ailleurs, c'est toujours avec des dessins, des sujets, bien sûr, magnifiques. Mais je pense qu'il y a une collection complète, peut-être à Cannes, peut-être, je ne sais pas.
En tout cas,
Ça
ce qui est
serait que
assez...
le grand fond, je ne sais pas.
Ouais, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, on met ça sur une clé USB et on scanne
Ah oui,
tout, ce qui permet de garder,
c'est
même
sûr.
si il faut faire attention parce que ben, on ne sait pas si les supports peuvent durer pendant des années et des années. Mais il y a une évolution très conséquente, même pour un film. Aujourd'hui, moi, je me
Oui.
rappelle une expo qu'on avait eue sur bah, Lumière, le cinéma réinventé, où on avait
Oui.
les bobines de films, et puis à côté, on avait un petit disque dur qui permettait
Allez, oui.
d'intégrer. C'est fou comment
Oui.
ça a évolué, comment ça a changé, quoi. C'est chouette.
Absolument. Nous sommes passés d'un support matériel, c'était physique le cinéma. Il y avait un appareil, il y avait une pellicule, il y avait des produits chimiques, et là maintenant tout est électronique, tout est passé sur un écran. Et donc la luminosité de ces films est totalement différente. Moi, je me rends compte quand je vais voir des films, entre autres à la Cinémathèque, hein, j'habite à Paris. Donc je vais là-bas quand même assez souvent et je fais très attention au support projeté, si c'est un support numérique ou si c'est vraiment du film, un film quoi, un film celluloïde dont d'ailleurs il faut faire extrêmement attention si chers auditeurs vous avez chez vous vous retrouvez par hasard chez vous de très très vieux films, ce qu'on appelle des films flammes, sachez que tout ça est auto-inflammable et ce n'est pas une plaisanterie.
Oui, non, tout à
Il y a
fait.
même eu, il y a quelques années, un drame, il y a eu même des morts. Donc c'est absolument pas à garder chez soi et vous pouvez porter vos films. Soit dans des centres spécialisés, si vous êtes à Lyon, il y a l'Institut Lumière qui est très bien, ou la bibliothèque municipale de Lyon. Enfin, il y a des, c'est, faut pas s'amuser à garder ça dans son grenier chez soi parce que vous pouvez ne plus rien retrouver
Ah ben.
et que votre baraque tombe comme une allumette.
Ouais.
C'est,
Puis bon,
faut
à
pas
l'époque,
plaisanter du tout avec ça, hein.
bah, il y a eu une
Vraiment.
évolution. Puis à l'époque, c'est vrai qu'on utilisait des produits chimiques, ces produits divers et tout, ça c'est
Ouais,
important.
oui. C'est
Ok.
le support en lui-même qui est très dangereux.
Ok.
Aujourd'hui, voilà, on appuie sur un bouton et nous sommes là. C'est la modernité, c'est là aussi la beauté, le moment de l'époque dans laquelle on vit, où en effet, il y a une accélération extraordinaire. Moi, je fais partie d'une génération où je suis à 64 ans. J'ai vu ce monde totalement changé en à peine 20 ans. Donc, si vous avez 25 ans, sachez qu'avant, il y avait autre chose et que c'est très intéressant de s'intéresser à ce qu'il y avait avant.
Eh
Ça
oui.
permet d'imaginer un peu mieux de ce qu'on pourrait avoir après.
Eh oui. C'est vrai qu'on a eu la chance de vivre plein de changements assez conséquents
Oui,
et
oui,
fondamentaux. Je voulais te
oui.
remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler de tout cela.
Mais c'était un plaisir, comme
C'est toujours
d'habitude,
aussi
Alain.
passionnant. C'est toujours un régal d'échanger avec toi. Et puis il y a une
Merci.
connaissance, une culture et puis surtout une histoire qui est toujours au goût du jour.
On essaye de la faire passer aux plus nombreux, grâce à toi.
Merci à
Merci
toi.
aussi à toi. On remercie jamais assez ceux et celles qui s'investissent comme tu le fais. Un grand merci pour nous.